Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Marie-Noëlle Lienemann, ancienne ministre du Logement, sénatrice, membre de la gauche républicaine et socialiste. Bonsoir.
Bonsoir.
Marie-Noëlle Lienemann, il y a 20 ans, a été votée la loi SRU. C'était le 13 décembre 2000. Il est important de rappeler ce que signifie cet acronyme. C'est la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain. Le grand public a retenu la mesure phare qui impose aux communes de disposer d'un nombre minimum de logements sociaux. 20 ans après, quel bilan peut-on faire de cette loi SRU ?
Un bilan positif, mais un bilan, disons, un peu de colère, de la lenteur pour mettre en œuvre des objectifs. Comme vous l'avez dit, ça a été voté en 2000. Moi, j'ai fini les derniers décrets d'application en 2002. Donc, voilà, 18-20 ans. L'objectif à l'époque était d'avoir 20% de logements sociaux sur l'ensemble des villes inclus dans ce qu'on appelle les périmètres urbains, c'est-à-dire selon l'INSEE, vous savez, il y a les villes-centres et les environs. Et on n'est pas, il y a encore beaucoup de résistance dans certaines communes. On a monté le seuil parce qu'évidemment 20% de logements sociaux, c'est pas suffisant si on veut répondre aux besoins de logements abordables pour nos concitoyens. Il est donc monté à 25% dans les endroits où on considère que la situation est plus tendue, c'est-à-dire là où il y a manifestement un manque notoire et beaucoup de collectivités n'y sont pas. Parce que la stratégie qui a été choisie est une stratégie de progressivité de la montée. On négocie avec les collectivités locales une feuille de route et l'intervention de l'État en sanction progressive n'est déclenchée quand la feuille de route n'est pas atteinte. Et là, on a encore des communes, alors je n'ai plus sous la main le nom, mais encore un nombre significatif de communes, et notamment parmi les plus riches, les plus favorisées, qui n'ont pas atteint ce seuil. Du coup, évidemment, alors selon les ministères, les préfets ont des consignes plus ou moins un peu fortes de sanctions. Alors, on peut dire quand même que maintenant, le principe de la mixité sociale, du brassage social, de la nécessité d'avoir des logements sociaux répartis sur l'ensemble du territoire pour combattre l'effet de ghettoisation est assez partagé. Enfin, il est d'autant plus partagé par ceux qui n'ont pas d'effort à reconstruire du logement social, parce que les autres, ben, il y a des ghettos de riches, ça existe. Alors, moi, je crois qu'on va... Il faut déjà bien faire fonctionner cette loi qui, normalement, doit être terminée en 2025. Donc, il faut très vite réfléchir à la nouvelle étape pour réussir ce brassage républicain.
Pour les familles modestes, il est encore très compliqué d'avoir accès au logement social, même quand on répond aux critères. Est-ce qu'il faut encore renforcer l'offre de logements neufs ?
Bah écoutez, c'est clair, il manque, il y a 2 millions de Français qui ont déposé une demande de logement social. Mettons que là-dedans, il y en ait à peu près un tiers où c'est plutôt de la rotation que de totalement des gens qui en ont besoin. On est quand même encore dans 1,5 million, plus d'1 million de nouveaux logements. Or, on en programme chaque année au mieux 120 000, mettons 150. Et quand on dit qu'on en programme, en réalité, quand on fait le bilan, c'est-à-dire ce qu'on a réellement construit et qu'on enlève à cela les logements vendus, moi j'ai jamais été une fanate de la vente du logement social, notamment pour financer, et qu'on rajoute à ça les démolitions qui s'imposent dans certains territoires, on a un solde annuel autour de 60-70 000 dans les bonnes années. Donc voyez bien qu'à ce rythme, si on n'accélère pas la construction de logements sociaux et de logements abordables, le déficit de logements va s'accroître. Le drame, c'est que le nombre de gens en situation modeste ou pauvre ne cesse d'augmenter. parce qu'on est une société qui se polarise, avec de plus en plus de pauvreté, avec une partie des catégories sociales moyennes qui voient au mieux leur pouvoir d'achat stagner, voire baisser, pendant que les plus riches deviennent plus riches. Et cette polarisation, elle fait que le logement, les gens ont besoin de logements très abordables, pas simplement abordables, mais très abordables, et que le marché ne produit pas naturellement un équilibre entre l'offre et la demande, notamment pour les catégories moyennes et modestes. Du coup, ça fait peser sur le logement social une attente et un besoin considérablement renforcé. Et il faut surtout arrêter de stigmatiser le logement social, parce que moi j'entends souvent les travailleurs clés, il faut les reconnaître, les caissières, les éboueurs, les postiers. Et ces gens-là, figurez-vous que s'ils n'ont pas de logements sociaux, ils n'ont pas les ressources pour se loger correctement. Donc le logement social, c'est pas simplement les très en difficulté, des gens qui seraient en marginalité, pas du tout. Donc il faut construire partout du logement social. Et d'ailleurs, dans le logement social, il faut que les aides publiques soient suffisamment significatives pour que les loyers de sortie, la quittance de sortie, à la fois par la qualité énergétique des bâtiments et écologique et par le niveau des loyers, permettent que la facture logement soit en proportion des capacités de revenus de nos concitoyens. La charge des Français en dépenses logement ne cesse de croître et elle atteint plus d'un quart de leurs revenus. Je parle des gens qui sont salariés, je ne parle pas des gens qui ont des revenus très élevés de placement, etc.
Valérie Pécresse considère que pour casser les ghettos et lutter contre l'islamisme, il faudrait notamment limiter à 30% le pourcentage de logements sociaux. On parle souvent d'un seuil minimal. Est-ce qu'il faudrait aussi un seuil maximal ?
Le seuil maximal, il est utile le jour où le seuil minimal monte. Parce que aujourd'hui, c'est plus facile de dire « je ne vous autorise pas à construire des logements sociaux » qu'à imposer à quelqu'un d'en construire. Donc, si c'est pour qu'il finisse, il y a moins de logements sociaux, moi, personnellement, je suis pas hostile au seuil maximal. Encore qu'il faudra discuter de ce qu'on appelle logement social, parce qu'on peut aussi considérer que dans certains cas, l'accession sociale à la propriété pour des gens ayant du SMIC pourrait constituer un élément de logement social de mixité. Quand on parle de PLS, franchement, c'est pas du vrai social. C'est d'ailleurs un des problèmes dans la rediscussion de la loi SRU, c'est que le concept de logement social va loin. Le PLS, c'est 3 SMIC et demi, 4 SMIC, hein, quand même, largement. Mais. Donc, on pourrait... il faut à ce moment-là que effectivement la contrainte soit immédiate et absolue sur les communes qui ne veulent pas construire. Parce que si vous limitez d'un côté et si vous ne faites pas de l'autre, les ghettos, ils arrivent autrement. Ils arrivent par des copropriétés dégradées, ils arrivent par le fait que les gens acceptent de loger dans du logement insalubre. Et inutile de vous dire que ce n'est pas sur Neuilly qu'il y a le maximum de copropriétés dégradées et de logements insalubres. C'est faire peser sur les plus pauvres la pression de la mixité sociale, là où elle devrait être d'abord mise en œuvre sur les plus riches. Je n'ai pas d'hostilité sur ce système s'il y a un vrai vase communicant immédiat. Et pas demain on rase gratis, on fera du logement social quand on pourra dans les autres zones.
Marie-Noëlle Lienemann, le gouvernement a présenté un projet de loi destiné à conforter les principes républicains. Qu'est-ce que vous pensez de ce texte ?
Alors d'abord, il y avait dans ce texte deux chapitres qui concernaient le logement. Et qui concernaient le logement par voie d'ordonnance. Ça, c'est la grande mode avec Emmanuel Macron. On est recordman toute catégorie de la mise en œuvre des politiques publiques par ordonnance, ce qui est une façon de mettre à l'écart le Parlement et de mettre à l'écart la consultation des citoyens et des élus locaux. Donc, nous avons, nous, les sénateurs et sénatrices de tous bords, quasiment sur la République en marche, exigé qu'on supprime cette idée d'ordonnance. C'était en fait un effet d'affichage. Alors, je crois qu'il y a, au sein du gouvernement, et notamment chez Mme Racon, la sincère envie de consolider et d'aller plus loin dans la loi SRU, parce que je crois qu'elle partage l'objectif de mixité sociale que nous avons toujours défendu. Et je m'en réjouis, car on a besoin d'un, j'allais dire, d'un front républicain large pour monter en puissance les contraintes de la loi SRU et réussir ce brassage social. Mais ce support n'était pas le bon. D'abord parce que c'était ordonnance, et puis parce que je ne crois pas qu'il faut tout mélanger. Vous savez, on parle des islamistes, mais ils ne sont pas que dans les quartiers. Quand vous regardez les terroristes qui ont été arrêtés, ils étaient souvent dans des zones pavillonnaires ou dans du privé, pas dans du logement social. Alors, il y en a quelques-uns, hein, mais pas beaucoup. Je partage l'idée que la concentration de toutes les personnes ayant des revenus très bas dans les mêmes quartiers n'est pas sain pour notre République, et donc, d'ailleurs ça fragilise la capacité de l'école publique à jouer pleinement son rôle d'intégration, parce qu'on lui fait beaucoup de critiques, mais il y a aussi cette réalité qui pèse sur les écoles dans certains secteurs de notre pays. Mais donc, il ne faut pas faire d'amalgame, c'était l'autre raison pour laquelle nous ne souhaitions pas que le vecteur qui permette de réfléchir à la loi SRU soit lié à ce projet de loi.
Plus globalement, je dirais, sur le contenu de cette loi qui vise à lutter contre le séparatisme, même si ce mot a été retiré du texte, que pensez-vous de ce texte ?
Bon, il y a quelques éléments qui sont positifs. Néanmoins, je trouve que... Et fait d'économie, alors il y a des choses sur la sécurité, les contrôles, pourquoi pas. Moi, personnellement, j'ai toujours été favorable à ce que l'école faite par les parents et à domicile soit une exception très contrôlée et encadrée, et que le principe soit la scolarisation de tous, avec des dérogations et étudiées au cas par cas. Et pas l'inverse du genre où vous avez le droit d'élever vos enfants à la maison, puisque déjà la Muvilude qui travaillait sur les sectes avait vu des dérives qui rendaient relativement impuissant la capacité d'arrêter ces dérives. Et d'autre part, on voit effectivement dans certains territoires des écoles clandestines s'installer, etc. Donc il y a des dispositifs. Simplement, je trouve que il y a un problème d'équilibre politique de l'ensemble. La promesse républicaine et les principes républicains, ils se déclinent sur de nombreux champs, qui est la laïcité, mais qui est aussi l'égalité, progresser vers l'égalité, mieux faire vivre la fraternité, évidemment garantir la liberté. Donc tout ça fait que ça donne quand même un sentiment que on a surtout des mesures contre certains musulmans, avec la difficulté toujours, bien sûr tout le monde dit personne ne s'attaque à l'ensemble des musulmans, heureusement, encore heureux, mais finalement je trouve que ça donne un sentiment de déséquilibre face à une religion qui progresse dans notre pays et qui progresse avec une autre histoire que celle de la religion catholique ou des religions chrétiennes. Donc cette difficulté-là, il faut à mon avis l'appréhender, et ce qui est vrai pour la République, c'est qu'on est plutôt habitué à avoir des structurations religieuses, si je puis dire, institutionnellement efficace et représentative. Alors, on n'est d'accord pas avec elle, mais voilà, l'Église catholique est organisée, les protestants aussi, les juifs de notre pays aussi. Donc voilà, tout ça fait qu'on est dans cette entre-deux. Je trouve qu'une loi sur les principes républicains aurait mérité d'être plus large dans son champ et plus positive dans ce qu'elle apportait d'émancipation.
Pour lutter contre le séparatisme, il faut plus de république, c'est finalement ce que vous proposez.
Pour moi, il y a une chose essentielle dans le plus de république, c'est l'éducation populaire. C'est la capacité, c'est l'éducation populaire et la lutte contre les inégalités de services publics, de redistribution sociale, qui engendrent dans certains territoires, qui soit d'ailleurs parti ou pas parti, des poches de pauvreté, où quand la solidarité collective de la République n'est plus présente, d'autres formes d'action sont privilégiées, et parfois ça permet d'une certaine emprise sur les gens. C'est vrai aussi pour les activités d'éducation, et notamment d'éducation populaire, le rattrapage scolaire, les sorties pour les enfants, la transmission des valeurs républicaines, de respect mutuel, etc., qui ne sont en rien contradictoire avec les valeurs de la plupart des religions, mais qui doivent être bien exprimées, explicitées, vécues par nos enfants et notre jeunesse. Et là, on est dans un déficit majeur depuis des années, car on n'a pas voulu s'atteler à des vraies politiques de présence des services publics partout, d'éducation populaire sur l'ensemble du territoire et davantage d'égalité, de solidarité. Vous savez, quand le néolibéralisme crée plus de pauvres, plus d'inégalités, et ben ça finit par avoir des répercussions. On n'a plus confiance dans l'avenir, dans le progrès commun, dans la République pour faire vivre ses principes, et on cherche ailleurs une impression de donner du sens à sa vie, où on manifeste une colère destructrice, et ça, ça n'est jamais bon conseiller. C'est le nid du radicalisme politique musulman. Mais d'une autre façon, le radicalisme dans d'autres religions. Mais bon, pour l'heure, il faut appeler un chat un chat. Si je puis dire, la France sait réagir face au radicalisme religieux catholique qui existe sous d'autres formes, notamment par exemple sur l'avortement, sur des choses comme ça. On a des comportements parfois inacceptables. Mais notre société, notre République, on se crée des antidotes.
Dernière question, Marie-Noëlle Lindemann, cette fois sur la crise sanitaire. Au Sénat, vous avez tenté de créer un pôle public du médicament, une proposition de loi finalement rejetée par la majorité de droite. C'est une grande déception pour vous ?
Oui, parce que je trouve qu'il faut quand même tirer maintenant assez rapidement des leçons de la crise, des raisons du fait que le virus étant là, on n'a pas eu la meilleure réactivité. Du coup, ça a eu des conséquences sanitaires, de liberté, économiques et de morts, bien sûr. Enfin, les morts, peut-être que c'est plus difficile à éviter. Mais en tout cas, ça a eu de graves conséquences. Et quand nous proposons un service public, un pôle public du médicament, il ne s'agit pas d'aller nationaliser toute la production de médicaments, toute la distribution de médicaments. Il s'agit d'avoir une structure qui permet de, un, veiller à tout ce qui est manque de médicaments, effets sanitaires rampants, problèmes qu'on voit surgir à l'extérieur pour prévenir. Deuxièmement, pour prévenir, la capacité d'avoir les médicaments ad hoc au bon prix et à bonne disposition. Deuxièmement, c'est de quand il y a des médicaments stratégiques qui ne sont plus produits en France, eh ben, c'est de les produire, soit par un accord avec des entreprises, ça c'est, et un accord entre le pôle public et des entreprises en France, soit en constituant des établissements à caractère public pour produire ces médicaments. Aux États-Unis, par exemple, devant un certain nombre de médicaments qui étaient manquants et qui sont maintenant dans le domaine public et qui ne sont du coup pas très rentables pour les entreprises, eh ben, les Américains, qui sont quand même le temple du capitalisme, ont uni un certain nombre de leurs grands centres hospitaliers, plus des collectivités des États, pour construire ces établissements publics et produire aux États-Unis les médicaments, d'ailleurs au voisinage de ces établissements de santé, des médicaments qui étaient devenus des médicaments stratégiques, vitaux et importants pour les établissements hospitaliers. Je ne vois pas pourquoi on ne serait pas capable en France de faire ce pôle qui permet soit de faire directement, soit de négocier avec les entreprises, et par ailleurs d'être vigilant quand il y a des délocalisations. Quand vous pensez qu'on met que Sanofi touche 130 millions par an de crédit impôt recherche, et qui est payé par le contribuable français, et qui vient aujourd'hui annoncer la suppression de 400 postes de chercheurs, pas de les bas prix, etc., de chercheurs sur le territoire national, vous voyez bien qu'on aurait besoin d'un pôle public, soit pour dire à Sanofi, maintenant il faut conditionner les aides par un accord cadre entre le pôle public et Sanofi, parce que nous avons intérêt à ce que Sanofi se développe, mais il faut que les profits soient raisonnables. On peut créer des rapports de force, on peut créer aussi des convergences avec ces entreprises, et si besoin, et ben, prendre des décisions, par exemple, de pôles de recherche spécialisés qu'on ne veut pas laisser partir de notre pays. La France est un grand pays qui peut le faire. Donc nous pensons que ce pôle public était aussi utile pour les stocks de médicaments. On a aujourd'hui les armées, la pharmacie des armées qui a des stocks, heureusement, la pharmacie de la PHP. Nous pensons qu'avec, il faut se mettre en situation d'avoir des gestions de stocks. On l'a vu pour les masques, tout ça est en flux tendu. Donc dès qu'il y a un grippage, on est bloqué, d'avoir les stocks suffisants. Et la dernière chose que nous proposons dans ce projet de loi, c'est un observatoire citoyen, notamment sur le prix du médicament, parce que les gens veulent comprendre pourquoi certains médicaments coûtent très cher, pourquoi ils sont, on dit qu'ils manquent pour faire monter les prix, parfois pourquoi on a des génériques cher, parce que d'ailleurs on les fait venir de Chine avec aussi beaucoup de malfaçons ici ou là qui fait que ça augmente les prix. Bref, il y a besoin d'associer le citoyen dans la compréhension de comment en France est géré tout ce circuit du médicament qui ne peut pas être simplement un bien marchand comme les autres.
Merci Marie-Noël Lienemann. Je rappelle que vous êtes ancienne ministre du Logement et sénatrice, membre de la gauche républicaine et socialiste. Bonsoir.